Bien, il est temps de se mettre au travail.
Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable.
Je vous présente Monsieur Meyer, notre psychologue d'entreprise.
Allez, la prospérité de notre entreprise.
Si un employé a un problème, l'entreprise a un problème.
Enquête de sens.
Le travail, ma belle, c'est la liberté.
Ça n'a pas de sens.
Pourquoi ?
Parce que c'est un travail qui me dégoûte.
La compagnie les a dépassés. Ils ne sont pas cadres.
Bah, t'as mis toute ta force dans ton travail, il passe plus rien pour le reste. Seulement le reste, c'est tout.
Enquête de sens.
Salut, je suis Johan, entrepreneur engagé au sein du groupe SOS et logothérapeute. Chaque mois, j'ai décidé de vous proposer d'explorer une facette différente de la question du sens de l'existence, puis de vous faire rencontrer un spécialiste ou une personnalité inspirante sur le sujet. Aujourd'hui, nous aurons la chance de voir ensemble les liens qui existent entre le management, l'organisation du travail et le sens. Et je vous proposerai un exercice très simple pour vous aider à faire évoluer votre relation au travail et y trouver du sens. Pour tenter de répondre à cette question complexe, nous aurons la chance d'accueillir pour ce nouveau podcast la directrice Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine du réseau social professionnel LinkedIn. Ses fonctions l'amènent à connaître les aspirations profondes de centaines de millions d'utilisateurs dans le monde et font de Sandrine Chauvin une spécialiste de l'orientation professionnelle et du sens au travail. Bienvenue dans ce podcast qui vous aide à trouver le sens. Nous le savons tous, des plus grandes entreprises aux start-up, des associations aux administrations publiques, toutes les organisations se posent aujourd'hui la même question. Comment redonner du sens à leurs collaborateurs, améliorer la qualité de vie au travail et retenir les talents? L'engagement des salariés et l'épanouissement individuel sont devenus les maîtres mots. Partout, on voit fleurir les ateliers collectifs, les séminaires et les team building pour créer de la cohésion d'équipe, définir la raison d'être de son organisation et redonner du sens au quotidien. Alors vous me direz, pourquoi tous ces artifices qui autrefois n'existaient pas? Pourquoi la question du sens au travail émerge-t-elle alors que pendant des années, elle n'a pas semblé se poser? Il faut comprendre une chose. Pendant des années, le travail a été perçu par les individus comme un asservissement, ou au mieux comme un moyen de gagner sa vie. Dans la société qui est la nôtre, ce n'est plus le cas. La pénibilité a été considérablement réduite, en même temps que nous produisons assez de richesses pour pouvoir tous vivre décemment. Ce sont dès lors nos attentes par rapport au travail qui ont changé. Peut-être même plus que celui-ci n'a évolué. Une mise en perspective historique s'impose. Dans l'Antiquité grecque comme au Moyen-Âge, le travail, qui vient du latin tripalium, qui signifie un instrument de torture, est fortement critiqué. Pour les philosophes grecs, il est un asservissement, qui détourne de la capacité à réfléchir, tandis qu'au Moyen-Âge, il est réservé aux serfs, c'est le bien connu servage contrôlé par le seigneur. C'est la réforme protestante, très bien décrite par Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, puis les philosophes des Lumières qui vont contribuer progressivement à donner de la valeur au travail, à la fois parce qu'il permettra de créer de la richesse, de maîtriser et de s'arracher à la nature, mais aussi de s'émanciper et de vivre plus librement. C'est enfin la révolution industrielle qui marquera la consécration du travail et sa centralité dans notre existence, avec le paradoxe à la fois de permettre de contrôler la nature et d'améliorer les conditions d'existence, autant que d'être d'une nouvelle forme d'aliénation qui sera très bien décrite d'ailleurs par Karl Marx mais aussi Adam Smith, qui voit dans la division du travail en sous-tâches répétitives un facteur de perte de sens. George Friedman, dans son ouvrage Le travail en miettes, publié en 1956, adresse une critique violente au travail moderne et recommande un épanouissement en dehors du travail. George Friedman a raison. Le XXe siècle sera un siècle de paradoxe dans sa relation au travail. On perçoit à la fois l'amélioration de la qualité de vie au travail, la réduction du temps de travail, le passage de la production à l'encadrement des tâches, l'essor des technologies, de la robotisation, et en même temps l'émergence d'un chômage de masse dans toutes les sociétés développées, avec la perte de sens liée au chômage. C'est ce que le psychiatre viennois Viktor Frankl nommera dans les années 30 face à l'explosion du nombre de suicides, la névrose du chômeur et la névrose du dimanche, pour qualifier l'ennui de ceux pour lesquels tout passe dans la vie par le travail.
Le vide existentiel se manifeste principalement par l'ennui. Maintenant, nous pouvons comprendre Schopenhauer quand il dit que l'espèce humaine est apparemment condamnée à osciller éternellement entre les deux extrêmes de la tristesse et de l'ennui. En réalité, l'ennui, bien plus que la détresse, est aujourd'hui la cause et certainement le principal facteur des troubles psychiatriques. et ces problèmes augmentent dans des proportions considérables, notamment à cause de l'automatisation qui laissera probablement de plus en plus de temps libre aux producteurs moyens. Examinons par exemple ce qu'on appelle la névrose du dimanche, cette forme de dépression qui affecte les gens quand ils prennent conscience du vide de leur vie dès que la pression qu'ils ont subie toute la semaine se relâche et que le vide qu'ils éprouvent au plus profond d'eux-mêmes devient manifeste. Un certain nombre de cas de suicide peut être rapporté à ce vide existentiel. Des phénomènes aussi répandus que la dépression, l'agressivité et l'addiction sont incompréhensibles si on ne reconnaît pas le vide existentiel qui les sous-tend. Ceci est également vrai de la dépression qui touche les gens retraités ainsi que les gens âgés. Le vide existentiel apparaît sous des masques divers. Quelquefois, la frustration de la volonté de sens est indirectement compensée par une volonté de pouvoir, la volonté d'amasser de l'argent étant sa forme la plus primaire. Dans d'autres cas, c'est la volonté de plaisir qui vient prendre la place de la volonté de sens.
Alors comment aujourd'hui expliquer cette perte de sens au travail déjà décrite dans les années 30 par Viktor Frankl ? Bien entendu, les facteurs sont multiples, mais il est possible d'en mentionner quelques-uns. Écoutons d'abord ce court extrait, issu de Chaplin Aujourd'hui, les temps modernes, documentaire complet avec les frères Dardenne.
La production en série et la chaîne de montage permirent de réduire le prix de toutes sortes de produits et de les mettre à la portée de tous. De minute en minute, la production gagnait sa bataille contre le temps et les efforts perdus. Les pièces arrivaient aux ouvriers sur des glissières. Ils ne devaient plus attendre inutilement. Et ce fut là un grand pas en avant, car on put alors régler le rythme de la production et le maintenir à une vitesse constante. Et la bataille contre les efforts perdus était en voie d'être gagnée.
Vous l'aurez compris, les facteurs de la perte du sens au travail sont nombreux et aujourd'hui bien connus. Ils concernent l'accélération des rythmes de production et des modes de vie. La parcellisation des tâches qui contraint l'individu parfois à ne plus comprendre le sens global de sa contribution. La flexibilité du travail, les open space, le flex office, qui empêche la personnalisation du travail et le sentiment d'appartenance à l'entité. Mais ça concerne également le renforcement des contrôles et la perte d'autonomie des travailleurs. La diminution du lien social au travail qui peut être perçu comme l'un des maux les plus importants actuellement du fait du Covid et la multiplication du télétravail. Enfin, la digitalisation et la robotisation qui parfois renvoient l'individu à n'être plus qu'un rouage contrôlé d'une chaîne dépersonnalisée en est également l'un des facteurs explicatifs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pas moins de 12,5% des cas d'absence au travail sont liés à des maladies psychiques et non physiques. Pourtant, les entreprises ne savent toujours pas comment les gérer. Alors, comment redonner du sens au travail ? Pour la professeure en psychologie Estelle Morin, le sens au travail relève de trois sphères. Individuelle, des relations professionnelles et du point de vue organisationnel. Schématiquement, on peut distinguer trois aspects centraux du sens au travail. D'abord, l'orientation du sujet dans son travail quotidien, dans ce qu'il fait au jour le jour. Est-ce que ce que je fais est épanouissant ? Est-ce que c'est utile, logique, sympa, drôle, agréable, distrayant ? Ou au contraire répétitif ? Idiot et aliénant. Il faut donc maximiser le bien-être au travail et minimiser les facteurs anxiogènes ou de pénibilité pour chaque poste si on veut maximiser le sens. Ça concerne également la signification du travail plus large, son rôle dans l'organisation et le sens global de ce travail. Dans quelle mesure ma contribution participe à la réalisation de quelque chose de plus grand que moi, d'une cause pour laquelle je m'engage. Par exemple l'éducation, le service de l'État ou tout simplement la mission de mon entreprise, qui a un projet auquel j'adhère pleinement. Il faut donc garantir à la personne de pouvoir comprendre sa contribution au projet au sens large, projet dans lequel elle s'inscrit au quotidien. Enfin, émerge une fois encore la question de la cohérence entre les valeurs et le travail que la personne accomplit. Est-ce que je défends, au travers de mon travail, une certaine vision du monde et du sens que je conçois pour l'existence ? Il faut donc permettre à chacun d'exprimer ses valeurs et aux organisations d'évoluer en fonction des valeurs portées par leurs salariés. Il faut que ces trois aspects soient réunis pour qu'une personne trouve pleinement du sens à son travail et que celui-ci soit un vrai levier d'épanouissement. Si l'un des trois vient à manquer, ou s'il est remis en question, le salarié risque d'être touché par la perte de sens. Prenons l'exemple d'un professeur de collège. Il peut très bien trouver que sa contribution à la société est réelle, qu'il s'engage pour les valeurs qui sont les siennes, la transmission, l'éducation, l'égalité des chances, l'apprentissage des matières essentielles, l'histoire, le français, les mathématiques par exemple, mais considérer que ses conditions de travail au quotidien, dans sa relation à ses élèves par exemple, sont trop difficiles et perdent complètement le sens de son travail. A l'inverse, quelqu'un que l'on mettrait dans d'excellentes conditions de travail et de rémunération, mais dont l'unique finalité serait par exemple de vendre des produits alimentaires de mauvaise qualité et qui contribue à faire augmenter l'obésité, pourrait être assez rapidement touché par le sentiment que sa contribution au monde est négative et être en désaccord avec ses valeurs. L'enjeu est donc de comprendre ce que l'on attend en matière de sens dans son travail. Ça nécessite une descente en soi-même, de s'arrêter et de prendre le temps de la réflexion quelques minutes. Alors la question se pose de savoir comment l'entreprise peut se transformer pour redonner du sens. Et quel est le rôle des managers ? Il faut comprendre aujourd'hui que le travail n'est plus une valeur en soi. C'est la raison pour laquelle André Comte-Sponville dira que le sens du travail est forcément autre chose que le travail. Et c'est aussi pour cela que le positionnement et l'attitude des managers sont centraux s'ils veulent redonner du sens au travail.
Ça veut dire que le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. Et tant que vous n'aurez pas compris quelle est cette autre chose qui donne sens au travail, vous aurez tendance à faire du travail une fin en soi, c'est-à-dire une valeur morale. Alors ça, c'est très confortable pour le manager. Parce que si le travail est une valeur morale, un, il n'a plus à s'interroger sur son sens. Deux, il peut se permettre de traiter ses collaborateurs de paresseux. Il y a juste deux petits problèmes, c'est que traiter tes collaborateurs de paresseux, c'est pas toujours juste, moralement. Et surtout, deuxièmement, d'un point de vue managérial, c'est notoirement inefficace. Vous connaissez tous ce dicton oriental, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Cet imbécile devait être manager. Ou beaucoup de managers, malheureusement, ressemble à cet imbécile. Parce que vous lui montrez la lune, il regarde votre doigt. Alors vous dites, attends, imbécile, c'est pas mon doigt qu'il faut regarder, c'est la lune. Il pourrait vous demander, mais pourquoi tu veux que je regarde la lune? Elle ne veut rien dire, la lune. Elle ne va nulle part, la lune. Elle n'a pas de sens, la lune. Ton doigt, lui, il a du sens. Ton doigt, il veut dire, regarde la lune. Eh bien, tu vois, je préfère regarder ton doigt qui a du sens plutôt que la lune qui n'en a pas. Pourquoi est-ce qu'il est très bête? Il est très bête parce qu'il est fasciné par le sens, obnubilé par le sens, au point d'oublier que le sens ne vaut qu'au service d'autre chose, qui n'a pas de sens, mais qui est une valeur, bien sûr. Eh bien, quand messieurs Seyère et Raffarin répétaient « valeur travail », ils étaient exactement dans la position de l'imbécile qui regarde le doigt. C'est pas de peau là encore, parce que les jeunes, eux, bien sûr, ils préfèrent regarder la lune. Le vrai manager, c'est pas celui qui dit au jeune gars qu'il vient d'embaucher, va leur travail, regarde mon doigt. C'est celui qui lui dit, t'as vu la lune? On va y aller ensemble. À condition d'avoir les moyens de l'y emmener et de l'y accompagner.
Enquête de sens.
Dès lors, la question du sens de travail se joue à deux niveaux. À l'échelle micro, celle du salarié, et au niveau macro, à l'échelle de l'organisation dans son ensemble. Il faut que ces transformations concernent directement tous les aspects de l'entreprise ou de l'organisation. Les RH, le management, l'accueil des nouveaux collaborateurs autant que la qualité de vie au travail. Il apparaît essentiel d'introduire la notion du sens au travail dans les entretiens annuels et pour les managers de croiser dynamique de sens du salarié, ses compétences et les besoins de l'organisation. Ceci suppose que les managers soient formés aux enjeux liés au sens et à l'écoute des attentes de leurs collaborateurs. Enfin, il faut prendre en compte les différentes sphères de vie du salarié et voir la cohérence entre sa vie pro et sa vie perso. Assurer l'équilibre des deux, voir le fait que l'un alimente le second. Il en va de la cohérence entre les valeurs et le rôle du salarié au quotidien. Au niveau global, l'entreprise peut également engager des transformations plus structurelles. Qu'elles concernent la stratégie RSE, le fait d'entreprendre une réflexion autour de sa raison d'être, la prise en compte de l'ensemble des externalités positives comme négatives, qu'elles soient sociales, sociétales, environnementale, et bien évidemment l'éthique globale de l'entreprise apparaît comme un enjeu essentiel. Ces conditions, ce sont celles qui, réunies, permettent aujourd'hui d'attirer les meilleurs talents. C'est ce qu'illustre une fois encore dans ce court extrait André Comte-Sponville.
Pourquoi maintenant votre métier de manager est-il à ce point difficile? Il est extrêmement difficile parce que l'argent, le salaire, ça permet de recruter quelqu'un. Oui, c'est fait pour ça. Mais ça n'a jamais suffi à recruter les meilleurs. Ça suffit encore moins à garder les meilleurs, à les fidéliser. Ça suffit encore moins à souder une équipe, à susciter l'enthousiasme, la créativité, la responsabilité. Bref, si vous ne proposez à vos collaborateurs que des raisons médiocres de travailler. Alors comprenez-moi bien, le salaire est une très bonne raison de travailler, je le disais à l'instant, mais c'est une raison médiocre au sens où n'importe quel médiocre peut comprendre qu'il a besoin de gagner sa vie. Si vous ne proposez à vos collaborateurs que des raisons médiocres de travailler, vous ne recruterez et surtout vous ne garderez que les médiocres. Tous les meilleurs seront partis ailleurs, chez vos concurrents, où ils auront par hypothèse à peu près le même salaire, mais avec en plus autre chose que le salaire, autre chose qu'ils aiment aussi, qui fait donc pour eux un sens supplémentaire et donc une motivation supplémentaire.
Le modèle d'entreprise qui a certainement le plus mis la quête de sens au cœur de son fonctionnement aujourd'hui, c'est celui d'entreprise Opal, décrite par Frédéric Laloux dans son ouvrage Reinventing Organizations, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain podcast plus en détail. Alors comme pour chaque podcast, je voudrais maintenant vous proposer d'effectuer un court exercice pour vous aider à cheminer sur la question du sens au travail. Demandez-vous d'abord si la manière dont votre travail est organisé au quotidien vous semble pertinent, logique, ou si vous verriez des axes d'amélioration, et si oui, lesquels. Notez-les sur une feuille ou à l'aide de votre smartphone et voyez comment vous pourriez, le cas échéant, peut-être lors des points avec vos managers ou directeurs, ou lors des entretiens annuels, les faire évoluer. Faites-en de même concernant vos interactions sociales. Pensez à celles qui vous donnent envie de vous engager et à l'inverse, notez celles qui vous freinent au quotidien. N'hésitez pas à exprimer lors des moments réservés à cela ce qui pour vous dysfonctionne, ce qui ne fait pas sens et ce qui, par une légère évolution, pourrait transformer votre quotidien, motiver votre engagement plein et entier. Votre employeur, comme vous-même, vous avez tous deux à y gagner. Ensuite, réfléchissez à votre rôle dans l'organisation globale et votre contribution au projet d'ensemble de l'entreprise ou de l'organisation que vous servez au quotidien. Êtes-vous à la bonne position? Est-ce que vous comprenez votre contribution au dessein général de l'organisation? Et est-ce que votre contribution fait sens? Est-elle au bon niveau? Si tel n'est pas le cas, alors réfléchissez à la manière dont vous pourriez évoluer pour vous trouver à une position qui fait plus sens pour vous. Ça ne signifie pas nécessairement vous retrouver à une position hiérarchique dominante. Il peut simplement s'agir de travailler pour un projet plutôt qu'un autre, dans certaines conditions quotidiennement plutôt que d'autres. Enfin, posez-vous la question de savoir si les valeurs qui sont celles de l'organisation pour laquelle vous vous investissez quotidiennement font écho à vos valeurs les plus essentielles, les plus personnelles. Est-ce que vous adhérez à la raison d'être, à la mission, à la vision de votre organisation? Si tel n'est pas le cas, alors il faudra peut-être considérer, un jour, l'idée d'en changer. Vous l'aurez compris, l'enjeu est de prendre en compte les trois principaux leviers du sens au travail et d'interroger dans quelle mesure l'organisation dans laquelle vous êtes répond à vos aspirations en matière de sens ou pas.
Enquête de sens.
Sandrine Chauvin, bonjour.
Bonjour Yann.
Vous dirigez la stratégie éditoriale de LinkedIn en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Vous avez ainsi une vision d'ensemble des CV, des interactions, des aspirations de plus de 700 millions d'utilisateurs partout dans le monde, dont 22 millions en France. Alors avant toute chose, Sandrine, est-ce que vous pouvez très brièvement nous parler de votre job, de ce que vous faites au quotidien, au sein de cet énorme réseau social professionnel qu'est LinkedIn ?
Alors, je dirige la rédaction de LinkedIn. La rédaction de LinkedIn, c'est une équipe qui est composée d'une centaine de journalistes dans le monde. En ce qui concerne mes régions, donc l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine, ce sont 30 journalistes. Et chaque jour, on partage et on publie les principales informations et actualités économiques de chaque pays. Donc il faut savoir que sur LinkedIn, il y a trois grands piliers. Le premier, c'est que les membres viennent pour chercher un emploi. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est qu'ils viennent pour développer leur réseau, leur communauté professionnelle. Et le troisième, c'est qu'ils viennent pour s'informer sur leur communauté professionnelle et ensuite alimenter et nourrir leur communauté professionnelle qui ensuite va les aider à trouver un emploi, à s'informer sur justement leur projet professionnel. Donc voilà, c'est la mission, c'est définir cette stratégie éditoriale pour LinkedIn pour que les membres aient les informations dont ils ont besoin pour anticiper leur avenir professionnel.
Si je comprends bien, LinkedIn est donc aujourd'hui un lieu ressource pour qui voudrait trouver un métier ou un job qui a du sens.
C'est exactement ça. En tout cas, ils ont tous les supports et les moyens de s'informer, que ça soit via les profils des membres qui travaillent dans telle ou telle entreprise, via les pages entreprises ou via nos pages de la rédaction. En France, elle s'appelle LinkedIn Actualité et je vous invite d'ailleurs à la suivre.
Alors, on a vu dans ce podcast que toutes les organisations se posent aujourd'hui la même question. Comment redonner du sens à leurs collaborateurs, améliorer la qualité de vie au travail et attirer ou retenir les talents? Comment percevez-vous aujourd'hui, du point de vue de LinkedIn, cette question du sens au travail et quelles sont les nouvelles tendances?
Alors, sur les attentes qu'on constate le plus sur la plateforme, c'est évidemment de retrouver un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et du coup, on voit quand même un boom des demandes ou en tout cas des recherches d'emploi en télétravail. D'ailleurs, on a activé des nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de le faire sur LinkedIn. Et on a fait une étude récente via un baromètre emploi. C'est la deuxième édition qu'on vient de publier aujourd'hui, donc c'est tout frais. Et le bilan, c'est qu'il y a 12 fois plus d'offres d'emploi qui mentionnent le télétravail qu'avant le Covid. Donc au final, ça représente aujourd'hui 6% des offres d'emploi postées sur LinkedIn quand même. C'est encore pas beaucoup parce que les employeurs ont encore du mal à le notifier et à le mentionner clairement. Mais en tout cas, c'est en claire augmentation. L'autre enseignement, c'est que ces offres d'emploi qui mentionnent le télétravail ont 19% plus de chances d'être consultées et reçoivent 12% de candidatures en plus que l'ensemble des offres d'emploi. Donc ça veut dire quoi au-delà des chiffres? Ça veut dire que au-delà de la rémunération, au-delà de l'emplacement, au-delà des conditions de travail, les demandeurs d'emploi regardent aussi s'ils peuvent télétravailler aujourd'hui.
Est-ce que cette aspiration nouvelle au télétravail est pour vous une conséquence directe du Covid? Et plus globalement, qu'avez-vous pu constater dans la période actuelle en matière d'évolution des salariés dans leur rapport au travail?
Alors c'est clairement une nouvelle tendance puisque les personnes ont décidé aussi de se déplacer de ville en ville. On a d'ailleurs publié récemment un autre baromètre LinkedIn de l'emploi et dans cet autre baromètre on démontrait ou en tout cas via les data LinkedIn on a pu démontrer que l'augmentation du nombre de personnes qui ont décidé de quitter les grandes villes pour aller dans des villes qu'on appelle des villes 15 minutes, c'est-à-dire on peut tout faire à pied pour des meilleures conditions de vie finalement, et ces offres ou en tout cas ces déplacements selon les profils LinkedIn sont en augmentation de 126% par rapport à la moyenne sur la période de la pré-pandémie. Donc au-delà des chiffres qui est un peu compliqué, je l'entends bien, ça veut dire que le top 3 des villes d'où les professionnels partent, ce sont évidemment les grandes villes, Paris, Toulouse et Strasbourg. Et les professionnels décident d'aller vers des villes où l'ensoleillement, par exemple, est meilleur et où les conditions de vie, en tout cas, semblent meilleures. Donc, ça peut être Marseille, Montpellier et Rennes. Donc, ça, c'est aussi une grande tendance qu'on note sur la plateforme. Donc, ça veut dire que les gens aspirent à une meilleure qualité de vie tout en ayant le travail de leur choix.
Qu'est-ce que cela nous dit, Sandrine, de notre relation au travail, du sens au travail? Est-ce à dire que les personnes sont moins impliquées aujourd'hui dans leur travail qu'elles ne l'étaient précédemment? Qu'elles veulent en fait un rééquilibrage vie pro-vie perso?
Alors je suis pas sûre qu'il y ait une question d'implication parce que en général moi ce que je note c'est que la plupart des gens sont très engagés dans leur travail et ils aiment ce qu'ils font. C'est très rare que vous rencontriez des personnes qui n'aiment pas ce qu'ils font, sauf si le contexte s'y prête pas. C'est plutôt qu'ils ont envie de rééquilibrer l'espace dans leur vie qui est accordée au travail et surtout d'avoir des meilleures conditions de vie avec plus d'espace, avec moins de déplacements, etc. Afin de pouvoir mieux profiter du reste de leur temps libre.
Alors on a l'impression de percevoir aujourd'hui une sorte de réaction de certains dirigeants face au télétravail, la crainte d'un désengagement des salariés, des obligations de retour au bureau. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a des différences de ce point de vue-là selon vous, entre les grands groupes et les startups?
Alors, je suis pas sûre, contrairement à ce que vous dites, qu'il y ait une réaction négative par rapport à ça. Je pense que c'est un changement dans le mode de fonctionnement et que ça demande de revisiter le cadre de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise. Ça pose la question aussi de quel rôle vont jouer les bureaux. Ils vont rester sûrement. Après, à quoi ils vont servir? Est-ce que ce sont pour des regroupements d'équipes? Est-ce que ce sont qu'ils vont servir davantage pour des formations? Je pense qu'ils sont plutôt dans ce questionnement-là. Donc, en fait, ils sont en train de se réorganiser par rapport à tout ça, davantage que de se dire que c'est quelque chose qui va pas perdurer. En tout cas, c'est ce que nous, on constate sur les questionnements qui sont posés sur la plateforme par les membres et notamment par les dirigeants d'entreprise.
Alors, vous le mentionniez précédemment, vous venez tout juste de publier un baromètre LinkedIn de l'emploi sur les métiers et secteurs qui recrutent en télétravail. Est-ce que vous pouvez peut-être nous livrer les enseignements les plus saillants de cette étude?
Alors, les métiers et les secteurs qui recrutent le plus en télétravail, ce sont sans surprise les métiers et les secteurs où il est aussi facile de télétravailler. Si évidemment on travaille dans une usine de fabrication de voitures, c'est évidemment plus compliqué de télétravailler, voire impossible. Donc, parmi les offres d'emploi qui mentionnent le plus le télétravail, on a le secteur de la tech. Vous le disiez, les startups sont très ouverts et très flexibles sur ce mode de travail à distance. Tous les métiers de l'éducation. Les médias, la communication, dans une certaine mesure la santé et la finance. Donc ça, c'est dans l'ordre du top 5. Et ensuite, pour les métiers, pareil, ce sont évidemment des métiers qui sont facilement délocalisables, où il suffit d'une connexion Internet finalement pour faire son travail et réaliser ses missions. Donc dans l'ordre, on voit le métier d'ingénieur logiciel, le métier de chef de projet, le métier de commercial, le métier de chef de produit et le métier d'ingénieur système.
Merci Sandrine. Vous avez également publié en septembre le classement des 10 startups françaises qui font rêver les salariés français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces boîtes qui font notamment rêver les jeunes français ?
Alors effectivement, on a publié le classement LinkedIn Top Startup début septembre. Et donc parmi ces startups, la première qui arrive en pole position, c'est l'assureur en ligne Alan. La principale innovation, c'est que d'abord, un, ils sont pionniers, et deux, c'est une des 12 licornes françaises, donc il y a une forte attractivité pour ces entreprises en hyper-croissance. Et surtout, ils ont accepté très vite, justement, de mettre en place ce mode de travail hybride, donc ils ont un fort taux d'attractivité. Ensuite, en deuxième du classement, c'est ceux qui ont su innover pendant la crise, c'est notamment le cas de Swal, c'est une start-up qui est basée à Montpellier et qui est le spécialiste des tickets restaurants en ligne notamment. Et donc ça montre quelque chose, c'est qu'il y a une vraie tendance à la dématérialisation de tous ces services qui a été fortement accélérée durant le Covid. Et le troisième, c'est Frishti. Donc c'est le mode de livraison de plats cuisinés à la maison ou de courses en moins de 15 minutes dans les grandes villes Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Lille. Pareil, ça en dit long sur les aspirations des gens qui cherchent aussi à se faciliter la vie. Et c'est quelque chose qu'on a vu, ou en tout cas des services qu'on a vu énormément se développer durant la crise du Covid et des services auxquels les membres de LinkedIn, mais aussi les Français, ont pris l'habitude et souhaitent continuer post-crise.
Alors pour en venir à des enjeux plus structurels, on a vu dans ce podcast que la perte de sens était potentiellement liée à trois facteurs. Il s'agit soit d'une mauvaise organisation du travail, soit d'un désalignement entre les valeurs de la personne et les valeurs de l'organisation pour laquelle il travaille, ou encore de l'absence d'une cause supérieure autour de laquelle s'investir. Que pensez-vous de cela, Sandrine, et est-ce que ce sont des aspirations que vous constatez sur LinkedIn ?
Alors j'ai interviewé hier Yann Arthus Bertrand qui présentera son film Legacy, notre héritage, traduit en anglais avec la voix de Sting à la COP26. C'est cette conférence qui est organisée chaque année par les Nations Unies pour parler de l'urgence du changement climatique et des mesures qu'il faut prendre à l'échelle internationale. Et ce qu'il disait clairement, et c'est aussi ce qu'on constate d'ailleurs sur la plateforme, c'est que aujourd'hui, au-delà d'avoir un emploi, la plupart des personnes cherchent une entreprise où ils pourront voir et constater, ou en tout cas contribuer à un impact social et un impact environnemental positif. Ou en tout cas, changer la tendance pour qu'on puisse construire un monde meilleur, plus écologique et plus équitable. C'est ce qu'on voit à tous les niveaux de la hiérarchie. Et il y a derrière, ça cache surtout une vraie quête de sens et une vraie quête de se sentir utile, comme le soulignait très bien Yann Arthus Bertrand hier.
Le psychiatre viennois Viktor Frankl, dont on a parlé dans le cadre du podcast, a nommé dans les années 30 par le terme de névrose du dimanche l'ennui de ceux pour lesquels tout passe dans la vie par le travail et qui se retrouvent ainsi le dimanche confrontés à eux-mêmes et au poids de leur existence. Est-ce que vous constatez vous-même, Sandrine, sur LinkedIn, une baisse de consultation ou bien au contraire, est-ce que les utilisateurs continuent d'être actifs, même le week-end ?
Ce qui est intéressant, c'est que les membres de LinkedIn viennent aujourd'hui, y compris le week-end, parce qu'ils viennent chercher aussi de l'information et des sujets de réflexion. D'abord pour anticiper les changements du monde du travail qui se sont quand même fortement accélérés entre la transformation digitale, l'accélération vers un monde, ou en tout cas un monde plus écologique, un monde plus équitable. Donc ils cherchent quand même des sujets de réflexion, notamment aussi pour se préparer et pouvoir acquérir les compétences qui seront celles qui seront recrutées demain. Donc ça, c'est le premier point. Donc on les voit venir pour se renseigner, pour consulter leur fil d'actualité, pour consulter aussi notamment notre page LinkedIn Actualité où on publie des informations, où on publie des sujets de réflexion. Et ainsi, on les voit contribuer aussi aux conversations et aux sujets de réflexion, notamment via des commentaires, via des posts, via des vidéos, en tout cas toute forme de contenu, puisque aujourd'hui, chaque membre est un créateur de contenu et peut asseoir son expertise. Et donc, du coup, il profite aussi du week-end pour se construire ce qu'on appelle une marque professionnelle.
Alors, comment voyez-vous évoluer à long terme la question du sens au travail ? Et plus généralement, quelles sont vos prévisions sur l'évolution de notre rapport au travail, aux entreprises, aux organisations ?
Alors j'aimerais bien pouvoir les prévoir. Encore une fois, ce que je constate, c'est vraiment une accélération très rapide, un recrutement très orienté davantage sur les compétences, davantage que sur le CV ou en tout cas les études qu'on a faites, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque ça va permettre d'accélérer la diversité des profils qui auront accès à toute forme de métier. Ce sont les grandes tendances qu'on voit se dessiner. On voit aussi émerger ce qu'on a appelé aux États-Unis The Great Resignation. Elle est un petit peu différente, selon moi, en tout cas en Europe, puisqu'on est davantage sur une quête de sens plutôt qu'un changement géographique avec des personnes qui démissionnent en masse. Mais il y a quand même un changement structurel sur la façon dont les gens recherchent du travail et surtout sur quel travail ils recherchent, vous l'avez souligné, avec une vraie quête de sens derrière pour une contribution, encore une fois, à un monde plus équitable, plus écologique et aussi un souci personnel d'équilibre vie pro, vie perso. Ce sont les deux grandes tendances qu'on voit émerger très fortement et très rapidement actuellement et je pense qu'elles vont persister et d'ailleurs au niveau européen. On l'a vu sur la plateforme, il y a beaucoup de conversations sur la semaine de 4 jours. Donc au final, travailler un jour de moins en plus du week-end.
Peut-être pour finir, quels seraient vos conseils à des demandeurs d'emploi ou des salariés qui souhaiteraient quitter leur job pour trouver ou retrouver du sens au travail ?
Je pense qu'il faut d'abord regarder vers quel type d'entreprise et quel type d'emploi on a envie d'exercer. Pour ça, il y a notamment sur LinkedIn, il y a plusieurs façons de le faire. On peut aller voir les pages entreprises de ces recruteurs où en général, ils publient des posts dans lesquels vous allez pouvoir découvrir l'actualité qu'ils partagent. Est-ce que, par exemple, ils ont des investissements en matière écologique ? Est-ce qu'ils ont des investissements pour le bien-être de leurs salariés ? Est-ce qu'ils ont des investissements en matière de diversité ? Et toutes ces informations vont vous permettre de savoir si c'est l'entreprise pour laquelle vous avez envie de travailler. On a parlé du classement LinkedIn Top Startup. C'est pareil, on peut consulter les pages de ces startups, mais on peut aussi consulter les profils des salariés. Et en allant consulter les profils des salariés de ces startups ou même des grandes entreprises, cela permet de vérifier et de voir de quoi ils parlent, sur quel sujet ils s'engagent et voir qui s'est totalement aligné avec le nouveau projet professionnel qu'on a. J'en profite pour souligner qu'on a un classement qui s'appelle aussi LinkedIn Top Companies, qui sort tous les ans au mois d'avril. C'est le classement qui est similaire à celui des startups, mais pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés. Pareil, il y a de nombreuses informations qui font état des politiques RH de ces entreprises et qui permettent, un, d'avoir des informations sur leur page pour savoir sur quel sujet ils sont très engagés et comment ils attirent des talents. Et deux, de savoir comment leurs employés parlent aussi de ces entreprises, puisqu'il y a dans les data qu'on analyse un point sur l'engagement des salariés et les contenus publiés par les salariés.
Merci beaucoup Sandrine.
Merci.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à en parler autour de vous, à le liker, à me transmettre vos feedbacks ou d'éventuelles idées. C'était un podcast du Mouvement Up, à la réalisation Macha Bino et Raphaël Belon, pour la production musicale Emmanuel et François Moisan. Rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast, encore et toujours, autour de la quête de sens.